Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, RMC Story pour Estelle Midi. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 15h avec toute la bande aujourd'hui autour de la table. Rémi Barré, tout d'abord, salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
On est avec notre économiste Pierre Rondeau, salut Pierre.
Salut Estelle, salut à toutes et à tous.
La militante associative Anne-Sophie Saint-Père, salut Anne-Sophie.
Bonjour, bonjour à tous.
Et puis l'infectiologue Robert Sebag, tout juste rentré du Liban. Ça va Robert?
Écoutez, ça va et je vois la différence entre ce que vit mon pays et puisque vit le Liban, crise sociale, économique, politique, sanitaire, épidémie de choléra dans le nord, 2 millions de réfugiés syriens, inflation, donc, pas de gouvernement, donc voilà. Bon.
Et sinon, la vie, ça va?
Non, il nous a plombé l'émission.
Non,
là.
C'est vrai qu'on est un peu choqué par rapport au débat qu'on va avoir à l'heure. Et de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent aussi ici. Fait. Et donc, il faut savoir relativiser.
Voilà, relativisons. Au sommaire, aujourd'hui, on va quand même faire une émission, hein, Robert. La manifestation des bouchers charcutiers, les artisans en danger à cause de l'inflation. L'État doit-il encore sortir son carnet de chèques? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. Midi et demi, des députés qui se plaignent d'épuisement après 6 mois de mandat seulement. Est-ce que c'est indécent? À 13h, le gouvernement qui envisage de déployer des radars de covoiturage l'année prochaine. Est-ce que ça va trop loin? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et on a enfin les tarifs des Jeux Olympiques. Voilà, si vous voulez assister à des épreuves, on vous donnera tout ça avec Stéphane. À 14h, le télétravail qui perd du terrain en France. Moins de 6% des offres d'emploi mentionnent désormais la possibilité de travailler à domicile. Doit-on s'en réjouir? Et est-ce que c'est le début de la fin pour le télétravail? On attend bien sûr vos réactions au 32-16. Et puis il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec la colère du jour et c'est celle des bouchers charcutiers qui manifestent aujourd'hui pour réclamer un bouclier tarifaire sur l'énergie. Mais globalement Rémi, ce sont tous les artisans qui souffrent aujourd'hui à cause de l'inflation.
Exactement, tu l'as dit, il y a d'abord ce bouclier tarifaire pour faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Un bouclier tarifaire annoncé à la rentrée de septembre dernier pour les petites entreprises, mais dont les critères sont extrêmement précis. Il faut employer moins de 10 salariés, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros et surtout, ne pas dépasser une puissance électrique de 36 kV. Problème, pour faire tourner leur activité, les artisans ont généralement besoin de davantage de puissance. Une boulangerie de taille moyenne, entre 6 et 8 salariés, a ainsi besoin de 72 kV. J'ai bien dit que la limite, c'était 36. Les syndicats professionnels réclament donc, entre autres, que les critères soient assouplis au risque de voir nombre d'entreprises mettre la clé sous la porte pour certains commerçants. La facture d'énergie a bondi de 300%, et ce n'est pas tout. Le coût des matières premières explose également pour les artisans ces derniers mois. Le kilo de bœuf, par exemple, à l'achat pour un boucher, a pris 14%. La farine a pris 30%. La levure a augmenté de 70%. Le beurre et les œufs de 20 à 50%.
Voilà, donc c'est vraiment très difficile aujourd'hui, effectivement, pour les artisans.
Et je rajoute juste la question de savoir, parce que c'est souvent posé, j'ai lu dans pas mal d'articles, est-ce que vous ne pouvez pas un peu vous rattraper en augmentant les prix? Les boulangers répondent tout simplement, si je veux rattraper les prix, je ne peux pas vendre une baguette à 5 euros. Les clients ne suivront pas, non, évidemment, ça, c'est et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortent plus et ils ne peuvent pas faire reposer tout ça sur les clients.
Et on aura bien sûr beaucoup de témoignages dans l'émission. L'État doit-il à nouveau sortir son chéquier? C'est la question qu'on vous pose et que je vous pose, Pierre Rondeau.
C'est extrêmement compliqué. Parce que d'un côté, on a envie de dire oui pour lutter contre une forme de précarisation, de paupérisation, de suppression d'entreprises, de petits commerçants, une augmentation de l'emploi, enfin du chômage, pardon, une diminution de l'emploi. Donc on aura envie de les aider à court terme, ce qui est normal. On entend les chiffres hallucinants de 300% d'augmentation du prix d'électricité, une inflation sur la farine, sur la levure, sur la viande. Bien évidemment qu'on souffre toutes et tous et qu'il faut avoir une aide de l'État. Mais jusqu'à quand? jusqu'à quand l'État peut aider? Est-ce que l'État peut maintenir...
Mais là, tu fais quoi s'ils mettent la clé sous la porte?
C'est bien ce que je te dis, c'est que c'est extrêmement compliqué parce qu'on va les aider, admettons, jusqu'en janvier, février, et ensuite, la crise ne va pas s'arrêter. Au contraire, même, elle peut même se perdurer, se renforcer. Les prix peuvent continuer à augmenter. Il y a un risque là-dessus à ce qu'il y ait une accumulation et un enchaînement, un cercle vicieux qui puisse provoquer une espèce de crise. Par exemple, je vais éviter, comme Robert, d'être très pessimiste au début de l'émission.
Non.
Mais quand on regarde l'histoire économique contemporaine et moderne, c'est un papier de Natixis qui est sorti il n'y a pas longtemps à ce sujet, toutes les crises inflationnistes ont précédé des crises de récession économique. Mmh. À chaque fois qu'on a une crise inflationniste...
En Allemagne, il y a déjà la récession.
Effectivement. Mmh. À chaque fois qu'on a une crise inflationniste, pour avoir de la désinflation, pour avoir un retour à une baisse des prix et un retour à la normale, si je puis dire, ça doit forcément être couplé à de la récession économique. Donc, on les aide maintenant pour avoir une récession dans le futur, ou on ne les aide pas maintenant pour avoir une récession immédiatement. Mais dans tous les cas, malheureusement, c'est très pessimiste ce que je vais dire, malheureusement, on vit une époque difficile de souffrance économique et sociale.
Mais enfin, il y en a qui souffrent quand même moins que d'autres. Robert, est-ce que les artisans, ça doit être une priorité pour l'État ?
D'abord, on est un pays d'artisanat. La France a une tradition, en particulier dans les métiers de bouche, hein, que ce soit les boulangers, que ce soit les bouchers. La première chose qui me choque vraiment, c'est la déconnexion entre la réalité du pays, le fonctionnement. Alors, on a parlé de la puissance électrique. Alors, on dit pas plus de 36 kVA. Alors que la réalité pour un boulanger qui a un four, c'est au moins 72 à 100. Mais ça veut dire quoi? Les gens qui ont fait cette loi, parce que le bouclier, il accepte, mais ils n'ont pas été voir, ils sont pas questionnés, la moindre petite boulangerie, donc déjà, ça déconnecte. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Pierre l'a dit, il y a un cercle vicieux qui s'installe, parce que les salariés doivent être augmentés, on peut pas augmenter les prix jusqu'à un certain niveau. Je rappelle que la symbolique du pain, hein, on a vu dans l'histoire de notre pays que dès qu'on augmentait le pain, ça pouvait être le départ de révolution, de révolte. Et après, il y a le problème du coup, pourquoi l'électricité est si chère? Est-ce que le coût de production de l'électricité a réellement augmenté? Le gaz, c'est différent. Parce qu'il y a ce problème de la connexion entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. L'Espagne et le Portugal, ils ont complètement déconnecté. Puisqu'en France, on produit de l'électricité, on ne devrait pas avoir des factures qui augmentent de 5.
Il y a une vingtaine de centrales nucléaires qui sont fermées.
Exactement,
d'accord, mais on a fait redémarrer Saint-Avold il y a deux. Je sais, mais d'un côté, vous avez, si vous voulez, la possibilité de délestage. De l'autre côté, le problème écologique. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors, pourquoi on déconnecte pas ce prix du gaz, du prix de l'électricité, parce qu'on veut être absolument européen.
Exactement.
Européen, mais quel prix on va payer? Quel prix va-t-on payer?
Trop cher, manifestement.
Parce que vraiment, les artisans, on ne peut que leur donner raison. On va pas faire payer la baguette. Il faudrait effectivement, comme l'a dit, c'est entre 3 et 5 euros. Personne ne va payer une baguette 3 à 5 euros, hein.
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que quelque part aussi les artisans, c'est la vie des campagnes, hein, c'est-à-dire que vous avez des villages qui ne vivent que parce que vous avez un boucher, vous avez effectivement une boulangerie, si ces commerces y ferment, c'est aussi la mort des villages, quoi.
Ah bah oui, complètement. Moi, je rejoins ce qui a été dit. On peut pas laisser ces commerces fermés, on peut pas laisser les gens être licenciés à cause du prix de l'énergie. Donc, il faut une aide d'urgence. Il y a des chercheurs lillois qui avaient calculé qu'il y a eu 157 milliards d'euros d'aide aux entreprises en 2019. Donc, il y a de l'argent pour aider les entreprises. Ciblons pour sauver ces petits commerces qui sont essentiels à la vie économique. Après, je rejoins aussi la question sur comment se préserve de ces chocs sur l'électricité. Aujourd'hui, il y a ce couplage avec le gaz. Il faut repenser la définition du prix de marché. On pourrait renationaliser la production d'électricité très largement, en développant massivement les renouvelables.
Ça prendra des mois et des mois. Donc
ah oui,
bah, EDF mais, est quasiment nationalisé.
Il y a la solution, de court terme qui est d'aider les artisans et ensuite de penser l'avenir énergétique. On a un énorme retard sur le développement des renouvelables où il y a un gros potentiel en France. Un potentiel de développement économique. Hein, c'est des emplois qui seraient en France, de l'électricité qui serait moins chère. Or, aujourd'hui, ça va extrêmement lentement. On est en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et ça permettrait, à long terme, de plus avoir ce problème puisqu'on aurait une production nationale d'électricité propre. Ah. Ensuite, avec une petite limite, si l'électricité est trop peu chère, il y a des risques de gâchis. On a aussi des objectifs de sobriété.
Ah oui, bon.
Donc, il faut avoir un plan sur l'énergie pour une énergie propre, pour préserver l'activité des commerçants, mais pas que les vitrines soient allumées toute la nuit.
Oui, ça, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens.
Estelle,
après, il y a aussi juste, c'est une mauvaise année. On est d'accord pour les artisans, mais il faut pas oublier aussi que par exemple pendant le Covid, ça a été une embellie aussi pour eux. Il y avait la queue devant toutes les boulangeries, le midi et le soir, ce qui n'arrive jamais devant les boucheries, etc. Donc,
d'autant plus qu'à l'époque du Covid, les aides et le fameux quoi qu'il en coûte de 300 milliards, c'était un quoi qu'il en coûte universel, si je peux dire. Exactement. Tout le monde était aidé sans condition. Là, on met des conditions effectivement très restrictives et qui n'ont pas de lien avec jusqu'à réalité. À l'époque, il y avait
c'est pas la cigale et la fourmi. Hein, c'est pas la cigale et la fourmi. Vous avez gagné beaucoup d'argent pendant la Covid.
Non, mais c'est, maintenant, c'est des métiers où t'as, où
non, mais,
des années
d'accord, Robert, d'accord, d'accord. Non, mais là, aujourd'hui, Robert, c'est un problème de vie. C'est un problème de vie ou de mort. Vous avez dit tout à l'heure, la levure augmente. Mais pourquoi la levure augmente? Expliquez-moi.
Enfin,
que
pas,
la farine. Non, mais pas vous. Mais que la farine augmente, l'Ukraine, vous pouvez dire, la production de blé. Mais pourquoi la levure?
C'est parce que, Robert, la spéculation, et vous savez
après la viande, on comprend. Ils sont nourris au soja. Le soja, il vient souvent de l'étranger. Donc, ça veut dire du transport. Le transport augmenté parce que le coût de l'énergie pour les transports, sans compter le problème écologique. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux aujourd'hui. Et les salariés veulent être augmentés. Donc si d'un côté la matière première augmente, l'énergie augmente et les salariés augmentent, on fait comment ?
Bah justement, c'est la question. Vous êtes très très nombreux à nous appeler au 32-16 pour témoigner. Vincent nous appelle d'Aime-la-Plagne en Savoie et il est artisan boulanger. Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Vincent, est-ce que vous êtes en difficulté en tant que boulanger ?
Bah moi c'est pas trop sur l'énergie parce que j'ai la chance d'avoir refait mon contrat seulement l'année dernière, donc j'ai pris bloqué jusqu'à fin 2023.
D'accord.
Mais par contre c'est sur tout le reste. Mon four pour le pain il fonctionne au fioul et le fioul avant je payais les 1000 litres, je l'ai payé 700 euros les 1000 litres et là je suis entre 1700 et 1800 euros les 1000 litres.
Ouais. Ah ouais, donc et c'est plus de 100% d'augmentation.
Je fais mon plein tous les 1 mois et demi, 2 mois, donc ça forcément c'est une répercussion sur ma trésorerie, c'est surtout ça, quoi. Puis toutes les matières premières ont augmenté. Ça a tout a pris entre 40 et 60%. Donc,
Et le prix de la baguette, il a augmenté ou pas?
Moi, je suis passé de 1 euro à 1,10 euro.
Mais, ouais, c'est rien, 10%, quoi.
Et j'ai augmenté mes pâtisseries qui étaient à 2,50. Et je les ai montées à 2,75, qui reste quand même un prix assez abordable. Mais je peux pas augmenter plus. Je peux pas mettre mes pâtisseries à 6 euros et ma baguette à 2,50 euros ou 3 euros. Je suis dans un petit village de montagne et c'est pas possible, quoi. Donc.
Et Vincent, vous pensez que si par exemple, votre baguette, au lieu de la mettre à 1, vous la mettez à 2 euros et vos pâtisseries, au lieu de les mettre à 2,50, vous les mettez à 4, vous pensez que vous n'aurez plus de clients?
J'en aurais beaucoup moins. J'ai une grande surface Leclerc qui est à 1 km de chez moi. Et les gens, déjà depuis que Leclerc a ouvert, j'ai perdu ma clientèle.
Mais ça suffira pas.
Ils iront toucher Leclerc. Les grandes surfaces ont fait beaucoup de mal aux petits artisans.
C'est pas le même goût, Vincent.
Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent du goût, ils regardent juste le prix.
Donc puis même au-delà de ça, si la baguette passe à 2,50 €, si tu préfères ta baguette du boulanger, au bout d'un moment, financièrement parlant.
Mais tu peux en manger moins, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais
tu
non,
peux
mais
en manger
évidemment.
Moins et te dire que, ton pain il sera meilleur.
Tu as raison,
et deux, tu sauves ton petit boulanger.
On est d'accord, tu prêches un convaincu, mais ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre de personnes qui financièrement ne pourront pas assumer si la baguette demain est à 2 € et contraintes, elles iront en grande surface pour continuer à acheter des baguettes moins chères.
Vincent, vous avez combien d'employés?
J'ai 5 employés plus un apprenti.
D'accord. Et là, ça fonctionne bien. Vous allez licencier personne.
Je ne peux pas avoir moins de salariés. Je suis en galère. Il me manque déjà un pâtissier que je cherche depuis 1 an et demi, mais je ne cherche même plus parce que plus personne ne veut travailler. Donc, je fais le boulot de mon poste de boulanger et viennoiserie, plus le poste de pâtissier parce que je ne trouve pas de pâtissier. Donc, moins de salariés, je ne pourrais pas. Non, c'est pas possible.
Et la puissance électrique chez vous, dans votre commerce, elle est de...
J'ai jamais trop regardé ça, mais par exemple, à l'année, je paye 5000 euros d'électricité par an.
Son tarif est bloqué.
C'est pas énorme comparé à d'autres boutiques. Mais là, j'ai regardé depuis le mois de juin. Si je continue comme ça, je serai entre 6500 et 7000.
D'accord. Merci en tout cas Vincent de nous avoir appelé au 32-16 et bon courage à vous. J'entends la porte de la boutique qui sonne, donc manifestement vous avez des clients. Merci Vincent. Alexandra nous appelle de Valdaon dans le Doubs, elle est boulangère et Alexandra, vous avez enregistré une petite vidéo il y a quelques jours et qui fait le buzz en fait sur internet, sur les réseaux sociaux. Alexandra, dans cette vidéo vous expliquiez combien vous étiez en difficulté aujourd'hui, hein.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Effectivement, dans cette vidéo, oui, j'explique que moi, je vais être en difficulté, mais aussi, tous mes collègues artisans et tous, on va tous être dans la même galère.
Mais pourquoi, Alexandra, concrètement?
Alors pourquoi? Parce qu'à partir du 1er janvier, on applique des hausses colossales sur les tarifs de l'électricité aux artisans en ancien compteur, enfin tarif jaune. Donc moi concrètement, pour prendre mon exemple, ma facture, elle va passer de 16 000 euros à plus de 40 000 euros.
Oula.
Donc, pour l'année, c'est des sommes colossales. Alors, à répercuter sur le prix d'une baguette, clairement, c'est, enfin, oui. Voilà, je pense que tout à chacun peut comprendre que ça va être très compliqué. Donc, je vous écoute depuis tout à l'heure et j'écoute avec attention tout ce qui a été dit. Mais, je pense que, alors, j'entends que, ben, il va falloir, en gros, il a été dit tout à l'heure que ben il va falloir faire des choix, qu'il y aura peut-être des dommages collatéraux par rapport aux crises qu'on vit. Je tiens quand même à dire que ben nous artisans, en tout cas en ce qui me concerne, je passe mes journées à travailler, je bronche pas, je demande pas un chèque de l'État. En fait, je demande juste qu'on me laisse le droit et la possibilité d'être à l'équilibre. Je demande même plus à être rentable maintenant. Non, mais même plus là. On veut juste. Mais
ça veut dire une aide de l'État, Alexandra, un nouveau prêt.
Je ne sais pas. Je faut essayer de trouver des solutions. Après, on est là pour en discuter. Aujourd'hui, on essaie déjà juste de se faire entendre à dire les aides qui sont proposées. Elle colle pas et il y a des trous dans la raquette et il y a des gens qui passent à travers.
Mais il y en a toujours malheureusement. Même,
ouais, mais que quand oui, mais alors je suis désolée, je peux pas entendre ça et me dire bah alors quoi.
Mais je sais Alexandra, donc, mais c'est comme les effets de seuil. Mais non, bien sûr que non Alexandra, on est tout cœur avec vous en plus. Mais
les syndicats de représentants des boulangers disent qu'aujourd'hui avec les contraintes qui sont qui pèsent sur le tarif. Sur le bouclier tarifaire, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, il faut moins de 10 salariés, il faut une certaine puissance. Il n'y a que 40% des boulangeries qui peuvent bénéficier de ce bouclier tarifaire.
Voilà. Mais c'est hallucinant, on est d'accord. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais...
Donc, il faut se bouger. Enfin, voilà. Et nous, la seule façon qu'on a de se faire entendre, eh ben, voilà, c'est les réseaux sociaux. Alors moi, je suis désolée, c'était peut-être pas la solution, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on m'aide parce que je vous l'assure, en moins de 2 mois, fin février, s'il n'y a rien qui est fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits commerçants qui vont avoir mis la clé sous la porte et ça veut dire non seulement plus de d'hommes dans les petits villages, moins d'hommes dans les centres-villes et énormément de gens qui vont se retrouver au chômage. Et à un moment, je peux tout entendre.
Et puis le chômage, quand on est indépendant, c'est compliqué. Hein.
On peut pas aider tout le monde, on peut pas. Mais même mes salariés, moi, j'ai pas envie de les mettre à la porte.
Bien sûr. Donc, vous avez combien de salariés, Alexandra?
Alors moi, j'ai 2 employés, 2 apprentis. Après, ce que je voudrais juste te dire, c'est que aujourd'hui, voilà, j'ai mes collègues bouchers qui sont dans la rue.
Tout à fait.
Je les soutiens du plus profond de mon cœur et je pense que dans ce pays, il est grand temps que les artisans, on se mette à être tous solidaires ensemble. Et là, c'est le moment.
Tout à fait.
C'est le moment. C'est vraiment le moment parce que on va tous au même endroit. C'est-à-dire tous mettre la clé sous la porte. Et voilà, je peux pas m'exprimer mieux que ça. Je suis pas en colère contre l'État. Je veux juste qu'on nous écoute et qu'on nous aide aussi à trouver des solutions parce que j'entends que ben on peut pas aider tout le monde. Mais moi, j'ai pas fait des choix politiques.
Vous avez besoin d'être aidé, Alexandra. Voilà, c'est pas possible. On va pas mettre à la porte des milliers d'artisans. Non, et en tout cas, vous êtes très persuasive, Alexandra. Ça, c'est sûr.
Estelle, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un bouclier tarifaire énergétique pour les particuliers. L'augmentation, elle doit être limitée à 15%.
Oui.
Pourquoi on ne fait pas?
C'est pas les mêmes contrats, Robert. Okay, ça n'a rien à voir.
Attendez, on peut aussi s'adapter. C'est quand même la production d'électricité. Vous avez des augmentations entre 40 et 100% d'augmentation.
On peut pas.
Pourquoi?
C'est pas grave, tu fais ça, mais c'est les fournisseurs d'énergie qui vont déposer le bilan.
Mais oui. C'est le coût, l'énergie, en fait, qui n'est pas.
Mais justement, moi, je veux être.
Qui va la payer, cette
je veux savoir quel est le coût réel de la production d'électricité aujourd'hui.
Sans le bouclier tarifaire.
Parce que c'est le couplage. Oui. C'est le couplage par rapport au gaz.
Soit, mais sans le prix du gaz. Quand on t'annonce des augmentations de 300%, c'est effectivement cet ordre des choses.
Voilà.
Tu as des augmentations quand tu passes de 5 000 à 15 000, 20 000, 30 000.
Oui.
C'est ce type d'augmentation.
En tout cas, on vous remercie Alexandra, d'avoir été avec nous sur RMC et encore une fois bon courage et j'espère que vous obtiendrez gain de cause et qu'effectivement l'État vous aidera parce que la situation elle est très 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 compliquée pour les boulangers, vous l'avez dit, pour les artisans bouchers qui manifestent aujourd'hui à Paris. Et justement, on a un artisan boucher en ligne, c'est Mathieu qui nous appelle de Salles en Gironde. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Mathieu, vous manifestez aujourd'hui?
Non, j'ai pas pu monter sur Paris malheureusement parce que j'ai mon entreprise et puis moi je suis en province, donc ça fait un petit bout pour une journée. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous en province, mais je suis de tout cœur avec eux. J'ai reçu des papiers de la Fédé parce que je suis syndiqué.
D'accord.
Et donc on nous demandait à tous d'éteindre nos lumières entre 11h et 13h, toutes les lumières de nos commerces pour soutenir notre filière. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on va vivre une situation qui va être très très compliquée. Moi, pour vous dire, je payais 250 euros par mois d'électricité.
Ouais.
Le mois dernier, j'ai été prélevé de 600 euros. Voilà.
Ah oui, d'accord.
600 euros par mois.
Quasiment 200%,
et
quoi.
Et à partir du mois de janvier, je pense que je vais être à 1000.
Ah oui, vous passez de 250 à 1000, ça fait 400% ouais. d'augmentation. Ouais,
voilà, ouais.
C'est
ouais, je pense que je vais être dans ces eaux-là. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une boîte, j'ai 5 salariés en apprenti. On est 6. Avant, j'arrivais à faire de la trésor. Mm-hmm. Avant, j'arrivais à faire de la trésor. Aujourd'hui, j'arrive plus. J'arrive plus à faire de trésor.
Et est-ce que vous répercutez cette hausse des prix de l'énergie sur votre viande, Mathieu? Parce que c'est vrai que pour les boulangers, c'est compliqué, parce que tout le monde connaît le prix d'une baguette. En revanche, vous pouvez jouer sur les quantités, et personne ne connaît exactement le prix du steak au kilo, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais à un moment donné, je veux bien, je l'ai appliqué, parce que le problème, c'est qu'on a eu cette augmentation d'électricité, mais on a eu l'augmentation sur les vaches, on a eu l'augmentation sur les veaux, on a eu l'augmentation sur les porcs, on a eu l'augmentation sur la charcuterie, on a eu l'augmentation sur tout. Le problème, c'est qu'on peut pas répercuter. Vous en rendez compte, moi, je suis dans une campagne, dans un village où on est 7000 habitants, 8000 quasiment. Je vais pas mettre le faux filet à 50 euros le kilo.
Ben non, bien sûr, non, mais c'est sûr.
À un moment donné, les pauvres gens, comme les salaires, c'est pareil, les salaires, les retraites, c'est pareil. À un moment donné, les gens, quoi, ils vont arriver, ils vont dire, on peut plus.
Donc, non mais sur des produits, après regardez par exemple quand on est boucher charcutier, alors vous êtes quand même très nombreux à faire votre foie gras pour les fêtes, etc. Donc les produits de luxe peut-être qu'ils les mettent beaucoup plus cher parce que ça va être acheté par des gens qui ont plus d'argent. Et
les foie gras, le problème c'est qu'on en a pas cette année.
Il y en a pas,
ouais, je sais,
non mais c'est malheureux,
c'est terrible.
Essayez de chercher des solutions, mais il y en a pas.
J'étais encore avec mes fournisseurs ce matin, j'ai des clients ce matin dans ma boutique qui me suppliaient d'avoir du foie frais pour les fêtes. Je lui ai dit je sais pas si je vais en avoir.
Mais
je ne sais même pas
à
quel prix je vais pouvoir l'acheter.
Ah bah déjà donc, au supermarché, j'ai regardé hier, c'est monstrueux. Il y a des blocs de foie gras à 34 euros. Enfin, il y a un truc, vous dites, mais qui va acheter
voilà,
ça quoi.
Donc,
au supermarché.
Non, mais voilà, mais aujourd'hui, on vit dans un monde de dingue. Dans un monde de dingue. Les volailles de Noël, je fais mon truc, mes précommandes pour Noël. Les volailles de Noël, mon fournisseur, il me dit, elles ont pris 1,70€ au kilo par rapport à l'année dernière. 1,70€.
Mais non, mais c'est un jour, je suis d'accord.
Comment on va vendre les chapons 25 ou 30 euros le kilo. Ouais, on ne peut pas. C'est pas possible. Faut rester dans du raisonnable, quoi. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on augmente les prix, mais moi, je serai le premier à tiquer. Je vais arriver.
Non, mais il faut que l'État vous aide.
Elle va acheter une tranche de faux filet, deux tranches de foie de veau, elle va s'en tirer pour 50 balles.
Non mais vous avez raison Mathieu, et on comprend bien avec votre témoignage et celui aussi d'Alexandra tout à l'heure que la situation elle est inextricable et que vous pouvez pas vous en sortir, et il y a beaucoup de témoignages également sur l'appli RMC Rémi qui vont dans ce sens-là.
J'ai le témoignage d'Erwan par exemple qui nous dit bonjour Estelle, bien sûr qu'il faut aider les PME et TPE sinon le chômage va exploser en 2023, mais il faut bien cibler ces aides. Encore faut-il avoir le personnel sur le terrain pour vérifier que ces aides sont bel et bien utilisées par qui a droit et non des bureaucrate. Voilà ce que nous dit Erwan sur Direct Studio.
Et l'État doit-il sortir le carnet de chèques pour aider les petits artisans?
Ça reflète un peu ce que vient de nous dire Erwan. On comprend qu'il faut aider, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelles conditions. Et du coup, c'est assez partagé. C'est oui pour ces aides en faveur des artisans, mais oui à 54% seulement sur les réseaux sociaux, donc pour ceux qui sont prononcés.
Voilà, petite majorité pour effectivement que l'État aide les petits artisans sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. Dans un instant, on parle de la fatigue des députés. 6 mois après avoir été élus, nos députés sont très 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 fatigués. Est-ce que vous trouvez ça indécent? A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Rémi Barré, avec Pierre Rondeau, Anne-Sophie Saint-Père et Robert Sebag, avec vous bien sûr au 32-16 pour réagir à notre débat là tout de suite. Et ce débat, il porte sur la fatigue du jour, et cette fatigue, c'est celle des députés. 6 mois après avoir été élus, ils sont nombreux à se dire épuisés et au bord du burn-out. Le bureau de l'Assemblée nationale réfléchit ce mardi à des aménagements possibles au niveau de leur emploi du temps. Rémi, que se passe-t-il au sein de l'Assemblée nationale?
Eh bien, en cause des séances de nuit qui se multiplient, des milliers d'amendements à examiner, à tel point que nombre d'élus ne parviennent plus à rentrer en circonscription. Interrogée par BFM TV, Christine Pires-Beaune, élue socialiste depuis 2012, affirme avoir travaillé 297 heures en octobre dernier et fait même un décompte précis. 13 séances de nuit, dont 2 qui se poursuivent au-delà de minuit, 198 heures de travail dans l'hémicycle et 32 heures dans le train. Mais mais ce sont surtout les députés macronistes qui souffriraient le plus, confrontés à l'absence de majorité absolue.
Et oui.
Chaque voix compte lors des votes pour le gouvernement, ce qui contraint les élus à être systématiquement présents. Anne Genetet, elle est vice-présidente du groupe Renaissance, ex-République En Marche, juge qu'on ne verra jamais ça dans une entreprise, à tel point, tu l'as dit, qu'une réunion sur le sujet vient d'avoir lieu avec les présidents des différents groupes politiques, avec pour piste, entre autres, de permettre aux commissions de l'Assemblée de se réunir en visioconférence, non pas pour les votes, hein, mais pour les débats, ou de raccourcir...
Ça sera moins bien sur France 3, du coup.
Exactement, ou de raccourcir les textes aussi. Hein. Bah, ça fera pas de mal non plus, hein, si on pouvait le faire.
Exactement. Alors, est-ce que des députés qui se disent fatigués, est-ce que c'est indécent pour vous, Anne-Sophie Saint-Père?
Alors déjà, la question du travail à l'Assemblée, enfin, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe. Il y a toujours eu des sessions de nuit, il y en avait même plutôt plus avant. C'est-à-dire qu'il y a eu deux modifications du règlement pour limiter les séances à une heure, puis minuit, hein, comme les Gremlins, on s'arrête. Donc en fait, ce n'est pas exactement nouveau. Effectivement, moi, je suis beaucoup les débats parlementaires. Hein, j'ai pu m'interroger en suivant des sessions très tard sur la qualité du travail parlementaire au milieu de la nuit. On est tous très fatigués. Il y a des lois importantes hein, qui passent au milieu de la nuit sur... Les drones de surveillance, par exemple, ça a été fait en catimini.
Les soignants non vaccinés.
Donc voilà. Et donc après, il y a des pistes d'amélioration possibles. Moi, je suis pas forcément pour pousser le bouchon très très loin, même s'ils sont bien payés et même s'il y a beaucoup d'autres personnes hein, qui travaillent énormément pour moins de salaire. On va pas faire la course vers le bas.
Ils ont des employés quand même derrière.
Et puis c'est bien qu'ils
ne bossent pas tout seuls. Hein.
Oui, voilà. Mais c'est bien qu'il y ait certains députés qui se rendent compte des limites de la valeur travail et qui découvrent les limites de la valeur famille, temps de loisirs, etc. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait un peu limiter le nombre d'amendements. Ensuite, ça pose aussi des questions sur... parce que là, il y a des milliers d'amendements parce que les députés, ils ont besoin de s'exprimer. Ils sont face à la verticalité du pouvoir qui impose. Il y a peu de temps de discussion. Donc il y a une envie de beaucoup prendre la parole. Et c'est vrai que ça fait durer les débats. Il y a aussi peut-être des choses à faire sur mutualiser des moyens au niveau des groupes et des collaborateurs de groupes. Parce que vous l'avez dit, ils ne sont pas tout seuls, il y a des collaborateurs qui travaillent eux aussi beaucoup et qui doivent être fatigués.
C'est intéressant parce que justement, en prévision du sujet ce matin, j'ai fait un travail d'investigation, j'ai demandé parce que moi j'ai
un. T'as fait un travail d'investigation
Oui.
Mais il travaille beaucoup.
Personne ne te le demandait.
Non, mais j'ai voulu investiguer le sujet. J'ai un passé en politique, je connais encore, j'ai beaucoup de proches qui travaillent dans le milieu et je connais un certain nombre de collaborateurs parlementaires au Sénat et à l'Assemblée. Et j'aurais demandé directement, je les ai appelés ce matin, je leur ai dit ce que vous trouvez ou que oui ou non, vos députés ou vos sénateurs travaillent trop. Est-ce que vous travaillez trop? Et effectivement, ce qui revenait, c'était que vous avez le sentiment d'être sous-staffé. Il n'y avait pas assez de collaborateurs parlementaires. Qu'en moyenne, 3 ou 4 par député ou par sénateur, mais ça demande beaucoup de travail, un travail de recherche, un travail de rédaction d'amendements, un travail de lecture des amendements, un travail de préparation en commission. Il ne faut pas croire que l'Assemblée, c'est juste un député qui va crier sur son siège et débattre avec un membre de l'opposition. C'est aussi beaucoup de travail de terrain, beaucoup de travail en amont, et ça, à ce niveau-là, que ce soit les députés ou les collaborateurs, ils ont le sentiment de trop travailler.
D'accord.
Ce qui est rajouté aussi, ce qui est intéressant par rapport à la polémique qui est posée aujourd'hui, et ça va, tu as raison, c'est pas nouveau, hein, c'est ancien, ils ont toujours travaillé de façon assez régulière.
Ils le savaient,
c'est qu'aujourd'hui, comme on est sur une majorité relative, on a le 49-3. Et les 49-3, de fait, donnent le sentiment aux députés qui ont travaillé jusqu'à 2h du matin.
Qui ont travaillé pour rien.
Qui travaillent pour rien.
C'est ça.
Ils ont le sentiment, une forme de burn-out, de dire on a travaillé, on a fait passer des amendements, on a voté des amendements, on a rédigé des textes pour qu'au final ils soient jetés à la poubelle parce que le gouvernement passe en force et dise 49-3. Et là.
Il n'y a pas un 49-3 tous les jours non plus.
Non, mais là, pour le PLF et le PLFSS, on est à 6. Donc ils ont travaillé en commission pour au final ne servir à rien. Et ils ont le sentiment, en fait, de trop travailler pour rien.
Mais Robert, les députés sont-ils des travailleurs comme les autres, en fait? Quand on est député, on travaille pour la nation, on sait qu'on va beaucoup bosser.
C'est dur, Estelle, de travailler la nuit. Vous savez, à l'hôpital, quand on travaille la nuit, mais les salaires sont pas les mêmes. Demandez aux jeunes internes qui font plusieurs gardes de nuit, et puis c'est pas purement intellectuel, ils sont pas assis sur un fauteuil, ils doivent courir. Demandez aux infirmières, demandez aux aides-soignants qui travaillent la nuit, ou dans les EHPAD, ils travaillent aussi
c'est
la nuit.
C'est pas les uns contre les autres, en aussi, mais je sais bien, les infirmières et les médecins.
Bien. Et là, le
mais
problème.
Mais c'est bien que Robert appelle ça quand même.
Le problème, si vous voulez, c'est la différence entre leur réalité, que je comprends tout à fait, et la perception que ça donne. Parce que le salaire n'est pas les mêmes, ils ont des collaboratrices et des collaborateurs, important, 4-5. Bon, après, il y a la présence dans les circonscriptions. Et c'est là, ils se plaignent. Ils disent, nous, on n'a pas le temps d'être, on peut pas être au four et au moulin, on peut pas, on peut. Comment font les députés des Dom-Tom? Comment font les députés des Français de l'étranger? Hein, alors certains c'est en Europe, c'est pas très loin, d'autres c'est l'Asie.
Ils représentent l'Amérique du Sud, être en circo, je me demande ce que ça veut dire.
Oui, mais on est d'accord, mais ça a été bon, normalement la démocratie c'est aussi ça, il y a des Français qui vivent en Amérique du Sud. Alors ils vont faire tout
mais
en visioconférence.
Je
crois
Robert.
Que Pierre non, mais Pierre a raison dans le sens où ça le fait d'avoir une majorité relative,
ça impose effectivement d'être beaucoup plus présent pour les votes au niveau de l'hémicycle, ce qui n'était pas le cas avant. Deuxièmement, les députés se plaignent de... Ils ont deux fois le même travail, c'est-à-dire qu'ils se réunissent en commission. Il y a déjà des amendements. Ils discutent en commission, puis on revient sur la même discussion en plénière. C'est pas normal.
C'est le travail parlementaire,
ça a toujours été comme ça.
Ça
a toujours été comme
ça.
Alors, à côté de ça, si vous voulez, c'est quelque chose... On sait un petit peu le problème des Français avec la politique, c'est quelque chose qui va pas passer. Vous êtes fatigué, quel est votre salaire? Ça passe pas.
Non.
Alors que moi, je peux comprendre que leur réalité est extrêmement difficile, et puis c'est important. La démocratie, c'est aussi, c'est des lois, c'est des discussions.
Il faut aussi qu'ils soient en forme pour produire des textes de bonne qualité.
Je veux dire, dans le contexte actuel de ce dont on a parlé tout à l'heure, dans le contexte actuel des salaires, du travail, etc., ça passe pas.
Et justement, on est avec Eric qui nous appelle de Montredon, la Bessonie dans le Tarn. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour tout le monde.
Bonjour Eric. Et vous, je crois que voilà, les députés qui râlent, ça vous agace, hein?
Oui, un peu beaucoup, oui. Parce que moi, je suis chef de chantier en électricité. Donc la moyenne d'heure, c'est 12 heures par jour, minimum. Parce que je compte pas toutes les heures à préparer mes dossiers et à voir tout le matériel et tout ça, à voir comment ça, selon ce qu'on doit installer. Mais moi, je fais mes 12 heures. J'ai 3 heures de route où je travaille plus sur la région toulousaine. Et donc, tous les jours, je me fais mes 3 heures de route. J'ai 2 enfants. En plus, je suis veuve, donc il y a que moi qui s'en occupe. Et je me dis, mais moi non plus, j'ai pas 10 familles. Et pourtant, mon salaire n'est pas de 6 000 euros par mois. Je suis à 3 000 maximum. Et voilà, moi, je m'en plains pas. Donc, je suis même plutôt bien payé pour... Voilà, donc je me dis, eux, se plaindre...
Donc c'est indécent, quoi.
Ouais, mais... Pour moi, oui, c'est complètement indécent. Je pense que je les invite à venir passer une journée avec moi, 24 heures, et ils vont comprendre que ce que c'est une vie plein pot et toujours occupée, et plein pot, parce que les enfants, il faut bien les faire vivre, il faut bien travailler.
Voilà, ouais, c'est ce que disait Robert, ça sera pas accepté, quoi. Leurs plaintes, elles ne peuvent pas être acceptées. Tu voulais rajouter un truc, Anne-Sophie?
Oui, en fait, il y a effectivement cette situation de majorité relative qui change un peu, mais alors j'ai regardé les agendas. En termes de loi, c'est plutôt moins chargé que la précédente mandature, enfin que la fin de la précédente mandature.
Mais on a changé d'époque, vous savez, maintenant on a envie d'avoir une vie de famille, des week-ends,
mais moi, je suis
et les députés
fait
aussi.
Et si les députés pouvaient intégrer ça dans la manière dont ils légifèrent par rapport aux autres salariés, là, ce serait plus acceptable.
Oui, mais
s'ils prennent de ça, c'est pas mal.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que là, j'allais pas dire ce ras-le-bol, ce serait trop fort, mais enfin, en tout cas, cette inquiétude au sein de l'hémicycle d'un certain nombre de députés qui disent on est au bord du burn-out, en tout cas, on est très fatigué, elle est partagée de tous les côtés, que ce soit du côté de la majorité présidentielle, que ce soit du RN. Moi, là, je revois une déclaration d'Alexis Corbière, la France Insoumise, on peut pas taxer. Il nous dit quand on est député, on n'a pas le droit de se plaindre. Ce n'est pas du tout le sujet, mais la question, c'est comment on travaille différemment maintenant que le Parlement a repris un rôle central dans la vie politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de majorité absolue, donc il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions, et il dit voilà, il faut quand même qu'on soit en état d'avancer intelligemment et de ne pas être épuisé lorsqu'on débat.
Je veux dire, de la part de la NUPES et d'Alexis Corbière, c'est assez paradoxal dans la mesure où c'est aussi les députés de la France Insoumise en majorité qui font de l'obstruction parlementaire.
Ouais,
j'ai encore en tête, je vais montrer du doigt directement, mais Daniel Simonet, député de Paris, qui a pour un récent projet de loi déposé plus de 1000 amendements. Donc on est aussi à ce niveau-là sur...
Ils disent on est fatigué.
On est fatigué, mais aussi ils font de l'obstruction, ils font aussi beaucoup d'amendements.
Si on regarde les dépôts d'amendements, les Républicains ont déposé énormément.
C'est pas juste à la fois.
Ah oui, mais tout à fait. Mais ensuite, il y a clairement des moyens d'améliorer le travail. Justement, s'il y a beaucoup d'amendements, on peut remutualiser. Mais ensuite, si ça pose la question de la valeur travail et des autres valeurs dans la tête des députés, je trouve que c'est intéressant pour les lois qu'ils pourraient faire pour tout le reste des salariés.
Ils voteront la semaine de 4 jours.
Les commissions parlementaires, elles représentent, si vous voulez, proportionnellement par rapport aux différents partis politiques. Tout ce qui est discuté en commission, les amendements sont discutés en commission. Pourquoi repasser après en plénière et recommencer un débat, si vous voulez? Pourquoi on ne donne pas plus de pouvoir? La commission a décidé que telle loi, on a répondu aux amendements, et après on passe en hémicycle et on avalise.
Mais comme ça, il n'y avait pas eu de critique jusqu'ici. Là, ce qu'on peut mettre en avant aussi aujourd'hui, c'est ce plafonnement des amendements et faire en sorte qu'il n'y ait pas à chaque fois, par parti ou par groupe parlementaire, 2000, 3000, 4000 amendements. Je veux dire que ça, c'est très fastidieux comme travail. Moi, qui l'ai réalisé quand je travaillais en politique sous le mandat de François Hollande, je peux dire que se taper 3 à 4000 amendements à lire et à décortiquer parce que ça a été déposé par l'opposition, les trois quarts pour obstruction parlementaire, les petites mains des députés et des parlementaires doivent passer par ça. Et il y a aussi une plainte du côté des petites mains des parlementaires.
Alors, est-ce que les plaintes des députés, elles passent auprès de la population ? Rémi, ça donne quoi sur le compte Twitter d'Estelle Midi ?
Ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. C'est indécent pour 88% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
J'étais sûr de ce résultat.
C'est assez évident. Dans un instant, lui, il n'est jamais fatigué. Pourtant, il fait 16 heures. C'est Anthony Morel. Il nous parlera d'une révolution dans la lutte contre la délinquance grâce aux nouvelles technologies. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 48 sur RMC, RMC Story, c'est le moment d'accueillir notre spécialiste des nouvelles technologies, Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et grâce à vous, Anthony, nous allons voyager. Nous allons nous téléporter à San Francisco, où la police pourrait bientôt avoir recours à des alliés assez terrifiants dans la lutte contre la délinquance, des robots capables de tuer des criminels.
Ah, c'est Robocop, mais en vrai, en fait, ce qui se passe à San Francisco. Mais sérieusement, hein, c'est le département de police de San Francisco, le SFPD, qui a demandé très officiellement au conseil municipal, qui doit statuer aujourd'hui sur ce sujet, eh bien, de déployer des robots censés pouvoir neutraliser un suspect. Alors, dans certains cas extrêmes, hein, quand la vie d'êtres humains est en danger, mais quand même de neutraliser, donc de tuer, en gros, un suspect. Alors, quand on parle de robots, on les voit pour ceux qui nous regardent à la télé, il ne faut pas imaginer quand même Robocop ou Terminator. Ce n'est pas des humanoïdes. En fait, ce sont des robots qu'on utilise déjà. Vous savez, les robots de déminage pour aller désamorcer les bombes. Eh bien, en fait, ils sont déjà équipés. Alors, c'est ça. En fait, le truc, c'est que ces robots de déminage, moi, je ne savais pas, ils sont équipés pour la plupart d'armes à blanc pour pouvoir justement déclencher
les balises.
Voilà, exactement. Voilà, j'avais pas pensé à ça. En gros, là, l'idée, ce serait de remplacer ces armes à blanc par des armes réelles, par des armes létales qui pourraient donc être déclenchées par un policier. Donc il faudrait toujours quand même une intervention humaine, si vous voulez. Mais c'est quand même le robot qui tue. Et il y a déjà eu un précédent en 2016 au Texas, lors d'une des innombrables tueries de masse aux États-Unis. Il y a un forcené qui s'était retranché. Et la police a envoyé un robot auprès de cette personne avec une charge explosive. On a déclenché la charge et ça a tué la personne. C'est la première neutralisation plutôt par robot interposé.
Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on neutralise pas plutôt que de tuer ? C'est quand même mieux, non ?
Alors oui, mais enfin des fois il y a pas forcément le choix. Après, je suis pas dans les tactiques de la police, mais j'imagine que des fois c'est quand même un peu compliqué. Et sachant que l'étape d'après, parce que là je vous dis il y a une intervention humaine, mais la réflexion c'est est-ce qu'on pourrait pas demander au robot de décider lui-même le moment
s'il doit tuer ou pas ? Mais non, je ne l'ai pas, Anthony.
Mais vous savez que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que dans l'armée aujourd'hui il y a toute une thématique de réflexion autour de ce qu'on appelle les systèmes d'armes létaux autonomes. En gros, c'est de l'intelligence artificielle couplée à des armes. Et en gros, c'est la machine qui va décider quand elle tire. Et ça, ça a déjà été utilisé.
Il y a déjà des drones autonomes.
Exactement, hein, ça fonctionne déjà pour les drones. Et ça va ouvrir. C'est une boîte de Pandore. Ah oui, alors ça, il y a les questions de sécurité informatique. Après, le militaire, globalement, c'est bien protégé. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Non, mais c'est vrai. Mais ça va être des questions, si vous voulez, juridiques, éthiques, philosophiques, qui dépassent le cadre de la simple technologie. Mais c'est une vraie thématique de réflexion aujourd'hui, notamment dans l'armée.
Et c'est une vraie thématique de réflexion aux Nations Unies. Ça fait des années qu'il y a une campagne pour qu'il y ait une interdiction des armes létales autonomes. C'est un cauchemar, hein, ce truc. Ça veut dire qu'on peut lâcher des drones qui seraient habilités à tuer sans décision humaine.
Absolument.
Donc ça pose énormément de questions sur déjà la morale et puis qui est responsable en cas d'erreur. Comment est-ce que, enfin, on peut commettre des massacres hallucinants avec ces armes. Et en ce moment, enfin, et depuis des années, il y a des débats des États qui essayent de s'opposer au déploiement de ces machines. Donc l'armée y réfléchit, mais il y a aussi des États qui essayent de bloquer ça.
Sachant qu'il y a d'autres États qui sont très intéressés et qui ne veulent pas du tout bloquer.
Notamment
les dictatures,
j'imagine. Anthony, alors là, vous avez parlé des robots tueurs, mais c'est vrai que les robots sont déjà utilisés un peu partout dans le monde, dans la police, mais pas de manière aussi extrême.
Oui, non, mais il y a des robots auxiliaires de police, on va dire, un peu moins radicaux. Hein, voilà. Alors, à Singapour, par exemple, ouais, ils sont en train d'utiliser des robots traqueurs d'incivilité. Alors, ça, j'aime mieux.
Ah,
déjà.
C'est bien, ça.
Ça, je savais que ça allait vous plaire. Alors, c'est une sorte de petit R2D2, là, un robot monté sur roulette avec des capteurs, des caméras, et il va pouvoir détecter les infractions. Donc, une personne qui fume à un endroit où il est interdit de fumer, par exemple,
très
un emballage
ça.
Qu'on jette par terre, une trottinette qui se balade là où elle ne devrait pas se balader, le robot le voit et va interpeller la personne. Alors, va en gros l'enguirlander et lui mettre une amende potentiellement, sachant que tout est filmé. Donc
et après, il va tuer, donc.
Comment ?
Et après, il va tuer.
Mais
et après,
non
il va tuer. Non, celui-là, il ne tue pas. Celui-là, il tue pas.
Celui-là.
Alors, si on veut pousser le cran, le curseur un tout petit peu plus loin, c'est en Chine, dans les aéroports, ils ont commencé à déployer des robots équipés de tasers. Alors carrément, là, pour le coup, voilà. C'est un peu le même genre de robot, mais un peu plus violent quand même, avec un taser et donc capable de détecter une personne, par exemple, qui est recherchée des services de police ou une personne qui commet une infraction, et il peut le poursuivre. C'est-à-dire 18 km/h, hein, quand même. Hein, donc à part si vous êtes élu type Kipchoge, champion du monde de marathon, c'est un peu chaud. 18 km/h, c'est déjà une bonne vitesse pour échapper à ce robot qui commence donc à être déployé, notamment dans les aéroports.
Et pourquoi il y a autant de robots aussi? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la police. Bah oui, il y a la restauration, il y a le bâtiment, mais il y a aussi la police.
Mais c'est vrai, vous avez une crise des vocations dans plein de pays. Et en fait, comme dans beaucoup de domaines, ces robots, alors bon, ça peut nous amuser ou nous terrifier, mais en tout cas, ils vont être là pour réaliser les tâches qui sont soit les plus ingrates, les plus pénibles, parfois les plus dangereuses, ou les moins sexy pour les policiers. Tiens, je pense à Dubaï, par exemple, ils ont déployé des robots qui vont verbaliser les gens qui commettent des infractions dans la rue ou des voitures qui dépassent la vitesse autorisée. Oui. Donc c'est le robot qui verbalise et il a un écran sur son ventre, donc on paye l'amende directement sur le robot.
Ah, c'est bien ça.
C'est malin. Et alors en plus on peut pas contester l'amende parce que vous négociez pas avec un robot, c'est ça l'avantage, oui, si vous voulez. C'est ce qui est quand même pas mal et ça permet aux policiers humains de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est toujours ça. Des tâches intelligentes.
Des PV.
Exactement. Donc voilà. C'est tout l'intérêt aussi de cette robotique au-delà du côté un peu terrifiant dont on vient de parler. Il y a pas que ça évidemment, mais c'est vrai que ça va quand même assez loin là, ce qu'ils sont en train de nous faire à San Francisco.
Oui, c'est Anthony ça. On parle de quoi demain?
Demain, on va parler Coupe du Monde. L'équipe de France joue. Tiens, vous saviez que le ballon de la Coupe du Monde était un ballon connecté?
Ah bon?
Ouais.
Il est connecté à quoi?
Eh ben, il est connecté pour détecter les hors-jeux notamment. Il y a des petits capteurs à l'intérieur. C'est un truc
de
fou.
Oui.
Non, mais il y a en fait dans le ballon, vous avez des capteurs qui sont reliés à tout un tas de caméras autour du terrain, et en fait, il est capable d'analyser 500 fois par seconde sa position et de l'envoyer aux arbitres vidéo.
Il y a plus de magie.
Mais je sais. Le débat. C'est tout le
terrible.
Débat.
Terrible.
Regardez le but de l'Argentine, la Lautaro Martinez contre l'Arabie Saoudite. Bon, tout ça pour un minuscule, mais 3 mm.
Mais l'attaque avait raison. C'était vrai ou pas?
Mais et alors?
Ben oui, je sais, mais.
Le doute doit profiter à l'attaquant. Bah, écoutez, c'est toujours comme ça.
C'est tout le débat.
On est en train de perdre tout le sel de ce sport. Et c'est malheureux. Merci Anthony Morel. Tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, dans Estelle Midi, on parle du gouvernement. Ça va pas vous plaire, Robert. Qui envisage de déployer des radars de covoiturage l'année prochaine pour voir si vous êtes un ou deux dans votre voiture. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que vous comprenez ce choix? On attend bien sûr vos avis, vos réactions au 32-16 et sur l'application RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.